Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus comme tous les lundis, nouveau numéro de Bistro Vélo. On est ensemble pendant un peu plus d'une demi-heure pour échanger autour de notre passion. Vous le savez, Bistro Vélo, c'est votre émission. Vous n'hésitez pas à vous poser vos questions via le live Facebook à notre invité, Mickaël Chérel, qui sera en notre compagnie dans quelques secondes. Vous pouvez également la déguster un petit peu plus tard, le podcast visible sur tous les bons sites. Je vous propose tout de suite de découvrir ce qui nous attend avec le menu du jour. Au menu, aujourd'hui, on va parler forcément de l'Italie, le Bistro News du Giro. On prendra les dernières nouvelles dans cette journée de repos. Il Gregario, un solide équipier, peut-être l'un des meilleurs de ces dernières années, notre invité. Tiramisu normand du Sud. On fera le point dans le questionnaire du Bistro Vélo. Mickaël Chérel est notre invité, le coureur de la formation AG2R Citroën. Salut Mika, comment ça va?
Salut Colin. Merci, tout va bien. En repos aujourd'hui, donc voilà, je profite.
Après 9 étapes de ce Giro d'Italie, on est du côté de Pescara, Mika, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui avec l'équipe AG2R Citroën? On a tourné la patte ou on s'est reposé en attendant la suite des événements?
Ouais, on a été faire un peu de vélo hein, pour ne pas brusquer l'organisme. On a pris un petit café aussi en terrasse. On a visité un peu les alentours à vélo et... Et le reste, c'est des soins, massage, ostéo et du repos pour attaquer la deuxième semaine en pleine forme.
Est-ce qu'ils sont bons, les cafés à Pescara?
Ah, moi, j'ai pris un coca, alors mes collègues ont dit qu'ils étaient très bons. Ouais. Ouais, ouais.
Mickaël Chérel, pour l'instant, 32e au classement général de ce Giro d'Italia qui ne fait que commencer. Le meilleur coureur de l'équipe AG2R dans ce classement général, 21e surtout de l'étape d'hier, la terrible étape qui a mené les coureurs du peloton au sommet du blockhaus. Comment tu l'as vécu, Mika, toi, cette étape annoncée dantesque? Elle était dantesque, près de 5000 mètres de dénivelé positif. Ça fait mal aux jambes.
Ouais, ça fait mal aux jambes, mais bon, les sensations étaient bonnes. Donc, j'ai vraiment profité de ma journée. C'est une étape comme on a peu l'habitude d'en faire. Hein, 5000 mètres de dénivelé, c'est assez rare. Et il y a eu une bataille dès le départ à laquelle j'ai essayé de me mêler pour prendre le bon coup. Et puis non, c'est Félix, mes deux coéquipiers ont réussi à s'immiscer dans la bonne échappée qui malheureusement n'a pas eu de chance. Il y a eu un gros tempo trek et Ineos par la suite. Et voilà, donc ensuite j'ai tenté de m'accrocher au maximum pour bien terminer cette étape. Mais les jambes sont bonnes, donc c'est plutôt bien passé.
Ouais. Ah, c'est de bon augure. Bon augure pour la suite. La victoire hein, qui est revenue à Jay Hindley, l'Australien de la formation Bora-Hansgrohe, deuxième du Giro il y a deux ans derrière Tao Gegenhardt. Romain Bardet qui a pris la deuxième place devant Richard Carapaz pour la formation Ineos. Romain Bardet qui est troisième du classement général. Ta formation, on le disait, l'équipe AG2R Citroën qui avait mis deux hommes à l'avant hier dans l'échappée. On vous voit quasiment tous les jours dans les bons coups. On imagine que c'est une stratégie de cette formation AG2R Citroën. Et on espère pour vous peut-être que ça va se concrétiser dans les semaines à venir. Il va y avoir des occasions en tout cas.
Ouais, je l'espère. C'est clair que c'est notre façon à nous de briller. Voilà, l'objectif, c'est d'aller chercher une victoire d'étape. Et clairement, sur le papier, on n'est pas les plus forts. Donc, on doit se glisser dans des coups et avoir la bénédiction du peloton. Hier, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, je souhaite évidemment pour moi personnellement en prendre une dans les prochains jours. Sur une étape montagneuse de préférence et pour essayer d'aller jouer une chose. Mais en tout cas, on bataille tous les jours et la dynamique est très bonne pour le moment. Voilà, on a tous les jours des coureurs dans les échappées et c'est une bonne dynamique qui s'est installée depuis le début.
Ouais. Ouais, notamment Nance Peters hier qui a fait un gros numéro, hein, qui a résisté longtemps au retour du peloton. Bah, ça tombe bien, Nance Peters, c'est un de tes coéquipiers, un bout en train. Il avait une question à te poser. C'est un petit peu notre patte dans le Bistro Vélo. On écoute sa question, tu l'écoutes et on réagit juste derrière.
Mika, je sais que tu aimes bien prendre soin de ton corps, le bronzage, le rasage, l'affûtage, tout ça, tu adores. J'aimerais savoir comment tu envisages ton après-carrière entre bodybuilding ou culturisme.
Alors,
n'importe quoi. Il y aura une revanche ce soir à table parce que là, il y a des confidences. C'est clair que c'est un secret de polichinelle, mais j'aimerais être au bodybuilding. Bon, j'ai beaucoup de travail, hein, comme vous le voyez, mais... Non, mais bon, voilà, on plaisante beaucoup autour de ça et voilà, en tout cas, il y a un esprit de camaraderie au sein de l'équipe et on blague beaucoup, donc voilà, c'est une très bonne question de Nance. C'est du bon chambrage de très bon niveau. Bravo.
Du haut niveau, ça se réglera à la cantine. Vous êtes déjà très nombreux à nous suivre sur le live Facebook. Une belle victoire comme Nance Peters du côté d'Antols. Question de Mickaël Gaudin, bah, j'imagine qu'on y pense hein, forcément pour Mika. N'hésitez pas à vous poser vos questions à notre invité. On parlait de tes coéquipiers. Est-ce que tu sais le nombre de coureurs français qui sont engagés sur ce Giro d'Italia 2022?
Je dirais 11.
Vous êtes 13, seulement 13 coureurs, mais déjà deux victoires d'étape avec Arnaud Démare, hein, notamment, qui s'est imposé sur la sixième étape. C'était du côté de Scalea devant Caleb Ewan ou encore Mark Cavendish. Seulement 13 coureurs, Mika. Est-ce que vous regroupez un petit peu? Il y a un clan français qui se crée sur le Giro d'Italia ou alors vous restez vraiment avec les coureurs de l'équipe?
Oui, évidemment, on se salue au départ de chaque étape et on a eu des étapes vraiment tranquilles, notamment en Hongrie et même celle avant Naples en début de semaine, où on a pris le temps de discuter. J'ai fait des découvertes, j'ai discuté avec des coureurs avec qui j'avais très peu conversé auparavant. Et voilà, maintenant, le menu s'annonce un peu plus complexe sur les prochains jours, donc je pense qu'on n'aura plus le temps de discuter, mais en tout cas, évidemment, on se salue et entre Français, on aime discuter ensemble.
Mika, tu as participé en saison de carrière, on le disait, aux trois grands tours, à la Vuelta, au Tour de France, bien entendu, et au Giro d'Italia. Quelle est la différence entre le Giro et les deux autres grands tours? Qu'est-ce qui le différencie? On parle souvent de la ferveur, des tifosi. Toi, tu l'analyses comment, ce Tour d'Italie?
Bon, déjà, pour un Français, c'est difficile d'être impartial parce qu'il n'y a rien de comparable au Tour de France. Mais d'un point de vue sportif, le Giro, c'est vraiment une épreuve très spectaculaire avec une ferveur populaire, avec un public de connaisseurs au bord des routes. On ne vient pas seulement voir passer la caravane, ce n'est pas la fête de juillet, c'est vraiment, on retrouve des spectateurs avisés sur le bord des routes qui connaissent nos noms, nos prénoms parfois. Et c'est vraiment sympa et c'est une course qui laisse place à plus de rebondissements aussi, peut-être un petit peu moins stéréotypé, un peu moins maîtrisé que sur le Tour de France. Et c'est une épreuve que j'apprécie beaucoup. Ouais.
Peut-être un petit peu moins cadenassé, en effet, un spectaculaire, beaucoup de dénivelé, un petit peu comme à la Vuelta. On essaie chaque année d'innover pour vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, même à vous les grimpeurs. On parlait des deux victoires d'étape côté français d'Arnaud Démare. Au niveau du classement général, ça se passe bien avec un coureur que tu connais très bien. C'est Romain Bardet qui est au soir de la neuvième étape, troisième du classement général. Une question toute simple pour toi, Mika, qui le connaît parfaitement. Romain, est-ce que selon toi, Romain Bardet est capable de remporter ce Giro 2022?
Ah oui, il en est capable. Oui, c'est sûr. Il a montré hier sur la première grosse étape de montagne qu'il était parmi les 4-5 meilleurs. Je lui souhaite vivement parce que ça couronnerait une superbe carrière et c'est un travailleur acharné, hein. Je l'ai côtoyé de bon nombre d'années et voilà, ses succès, il les doit qu'à lui-même. Voilà, le petit regret, c'est qu'il soit en lice aujourd'hui pour la victoire et que je ne sois pas à ses côtés, ou du moins qu'il ne le fasse pas sous notre maillot. Ça aurait été une belle aventure. On en a vécu beaucoup ensemble, une deuxième place au Tour de France, une troisième. Et voilà, mais en tout cas, je lui souhaite vivement et je le sens vraiment capable d'une très grande performance.
Et justement, hein, Romain Bardet, on va en parler dans cette deuxième partie qui t'est consacrée. On l'a nommé Il Gregario. Il Gregario, j'imagine que tu sais ce que ça veut dire. Mika, tu l'as souvent entendu tout au long de ta carrière. Tu es un petit peu l'homme de l'ombre, mais le coéquipier des grands coureurs, celui qui fait le travail qu'on ne voit pas forcément souvent à la télévision, qui ne gagne pas souvent, mais qui est toujours là et qui est très, très important dans une équipe, dans un collectif. C'est ton cas.
Bah, merci. C'est un beau compliment. C'est vrai que, ouais, on dit Gregario en italien, on dit domestique en belge. Parfois, on en sourit avec tous ces mots. Mais ouais, c'est le Gregario, il n'a pas d'ego. Voilà, c'est un altruiste. Et moi, à un moment donné de ma carrière, j'ai cerné mes capacités et c'est ce que je pouvais faire de mieux. C'est ce qui me satisfait. Voilà, je l'ai fait pour Romain bon nombre d'années. Je l'ai fait avec Benoît sur les classiques ardennaises, notamment cette année, l'année dernière aussi. Et c'est un rôle qui me convient bien. Ça me plaît. et j'y prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est mon credo.
Ouais, en 16 ans de carrière, hein, ça avait commencé du côté de la Française des Jeux. Tu as beaucoup couru, on le disait, avec Romain, mais Jean-Christophe Perrault, Carlos Betancourt, Domenico Pozzovivo, que tu as retrouvé également sur ce Giro, qui a apporté les couleurs de ta formation AG2R. Une vie au service des autres, tu t'es dédié à ces coureurs et on te le rend plutôt bien, parce que dans le peloton, quand on parle un petit peu de Mika Schérel, quand on fait un tour de table, bah, c'est unanime. Tout le monde salue la performance, j'imagine que ça doit au fond te réconforter. On le rappelle, tu n'as pas de victoire professionnelle en 16 ans de carrière. Est-ce que c'est quelque chose qui te titille ou alors tu as fait l'impasse en te disant c'est pas grave, de toute façon c'est comme ça?
Non, je n'ai pas fait l'impasse, évidemment. Je suis toujours en selle avec un dossard au dos. Et évidemment, j'aimerais gagner. J'aimerais gagner aussi pour ma famille, pour mes enfants, Paolo, Chiara, qui, voilà, souvent Paolo et Chiara me le disent, Papa, tu n'as jamais gagné de course. Oui, j'en ai gagné, mais pas chez les professionnels. Et j'aimerais qu'ils me voient un jour lever les bras depuis leur canapé à la télé. Et, voilà, c'est quelque chose qui manque à ma carrière aujourd'hui, mais je suis extrêmement satisfait de ce que j'ai réalisé jusqu'à présent et je vis sans regret. Voilà, ça viendra quand ça viendra. Je vais essayer d'être opportuniste jusqu'au dernier jour de ma carrière et si ça sourit, tant mieux.
16 grands tours, Mika. Participation à 16 grands tours. Est-ce que tu imagines un petit peu ce que ça représente alors qu'il y a des coureurs qui espèrent toujours en faire ne serait-ce qu'un, participer au Tour de France? Toi, tu en as 16 dans la besace.
Ouais, c'est des épreuves que j'apprécie énormément. C'est des courses où on apprend énormément sur nous-mêmes. Il y a une gestion du stress, une gestion des émotions. On passe par plusieurs états au sein d'un grand tour sur 3 semaines. On est parfois une journée en difficulté. Et puis, les 3, 4 jours qui suivent, on se sent bien. Et voilà, sur chacun des grands tours, chaque coureur connaît une journée un peu de moins bien. Donc voilà, il faut savoir les apprivoiser, savoir les appréhender. Et voilà, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je sais que ça arrive et qu'il faut passer outre. Et que voilà, mais c'est pour mon profil de coureur endurant, c'est vraiment des courses qui me correspondent bien. Ouais.
Mika, on parlait de Romain Bardet tout à l'heure. 9 ans de relation, de partenariat, on peut appeler ça de diverses façons. C'est vraiment quelque chose qui va bien plus loin que le vélo. Toi et Romain Bardet, 9 ans sous les couleurs AG2R ensemble. On parlait de ce Tour de France, de ce podium, de ces étapes où tu l'as emmené vers la victoire. Ça crée forcément des liens sur et en dehors du vélo.
Ouais, évidemment, on est potes, hein. On a vécu beaucoup d'émotions ensemble et j'espère continuer d'en vivre, même si aujourd'hui il a un maillot différent du mien. Mais en tout cas, c'est resté un pote, ça le sera pour toujours, j'espère. Et voilà, je pense que tu soulignes le fait que je lui ai apporté, mais lui, il m'a beaucoup apporté aussi. Il m'a fait grandir en tant que coureur, en tant qu'équipier. Et il m'a aidé à me surpasser. Je suis parti beaucoup de fois en stage avec lui. Et si je suis le coureur que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui aussi, je pense.
Est-ce qu'il vient toujours te voir dans le sud? Parce que je sais qu'il y a quelques années, on se retrouvait du côté de Cannes, et vous rouliez ensemble pendant l'hiver, c'est toujours le cas?
Quelquefois, ouais. Ouais, quelquefois.
La relation, elle est là. Il y a eu beaucoup de questions. Comment s'est passée la séparation? Moi, j'ai envie de savoir, quand il a changé d'équipe, j'imagine que toi, un proche, un fidèle, bah, tu étais un peu dans le secret des dieux, tu avais cette réflexion, Romain t'en avait parlé. J'ai vu une question également passer, c'était Titi, pourquoi ne pas l'avoir suivi chez DSM? Question piège.
Non, c'est pas une question piège, mais aujourd'hui j'appartiens à une grande famille, l'équipe AG2R Citroën. Et voilà, il y a 2 minutes, je te dis que Romain m'a aidé à devenir le coureur que je suis aujourd'hui. Mais Vincent, il y a 12 ans, m'a tendu la main en 2011 quand je quittais la FDJ, la Française des Jeux, ma première équipe. Et aujourd'hui, j'appartiens à cette famille AG2R. Et je conçois plus ma carrière autrement que dans cette équipe. Donc,
Il te l'a proposé, Mika? Il t'a proposé de partir avec lui? Tu peux nous le dire.
oui, Tout à fait, ouais. Oui, j'avais la possibilité de le rejoindre. Je lui en suis extrêmement reconnaissant de m'avoir proposé cela, mais voilà, j'ai pas hésité. Mon choix était de poursuivre au sein de cette équipe et je regrette pas aujourd'hui.
Vous avez forcément échangé sur ce Giro d'Italia. On vous a vu hein, quelquefois à l'image sur Eurosport, côte à côte. C'est vrai que ça fait bizarre de ne pas vous voir sur le même maillot. Qu'est-ce qui t'a dit? On imagine qu'il se sent bien. Vous avez parlé vélo ou alors on a parlé des à côté?
Ouais, on parle de tout, de la famille, de prochaines vacances, voilà, de choses et d'autres. Mais évidemment, le lien commun, c'est beaucoup le vélo. Et on a évidemment parlé du vélo, de l'approche post-Giro, etc. Pardon, de l'approche pré-Giro. Mais voilà, on parle de tout comme avec un pote, tout simplement.
Ou comme un vieux couple, j'ai vu ça ressortir également sur le live Facebook, appelez ça comme vous voulez. Alors on me disait, passé professionnel en 2007 à la Française des Jeux, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau du cyclisme hein, depuis le temps, 16 ans de carrière professionnelle, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de l'entraînement, de la nutrition, des coureurs. On a d'ailleurs une question de quelqu'un que l'on aime bien du côté d'Eurosport, qui a couru avec toi sous les couleurs AG2R, un certain Steve Chenel. On l'écoute et on fait le point après.
Salut Mika, alors moi qui ne suis plus dans le peloton professionnel mais qui continue à courir en élite, j'aimerais que tu nous parles de l'évolution des jeunes coureurs, des néo-pros qui arrivent, qui sont un petit peu sans gêne, il faut le dire, qui n'ont pas forcément les mêmes codes que l'on avait toi comme moi lorsqu'on est passé professionnel. J'aimerais simplement que tu me dises ce que tu penses de ces jeunes qui arrivent et qui bousculent un petit peu la hiérarchie, qui bousculent les codes et qui finalement bah, n'ont pas la même préparation, la même évolution que nous on avait lorsqu'on est passé professionnel.
Je tiens à souligner le sérieux de Steve Chenel. Moi, j'avais un petit peu peur en lui demandant, et finalement, il a été très classe. Merci, Steve.
C'est vrai que je m'attendais à une fin un peu plus punchy, mais non, c'est une question sérieuse de Steve. C'est vrai que les relations entre coureurs ont beaucoup changé. Moi, quand je passais pro, je faisais beaucoup de complexes face aux champions, face aux coureurs emblématiques, hein. Aujourd'hui, ça change beaucoup parce que je pense qu'on brise les liens entre les jeunes coureurs, les amateurs même et les professionnels avec les réseaux sociaux, tout
Bien
simplement,
sûr.
où on leur permet de rentrer dans nos vies. Alors, certains communiquent plus que d'autres, mais en tout cas, pour certains qui montrent beaucoup de leur vie personnelle et sportive, voilà, le coureur, il arrive, il a l'impression de le connaître. Donc, et au-delà de ça, les coureurs maintenant, ils ont beaucoup de volonté. Ils ont une approche différente parmi les jeunes catégories. On roule beaucoup plus aussi. Les charges d'entraînement sont vraiment plus importantes qu'à mon époque à moi. Certains coureurs en junior arrivent avec 20, 22 000 km et la transition se fait plus facilement dans le peloton pro. Mais voilà, après, quant au respect, je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie à établir en fait. Face à ça, un coureur accède au rang professionnel par mérite, parce qu'il le mérite, parce qu'il a fait des choses, il a gagné des courses en amateur. Et il n'y a pas vraiment voilà, on doit oser se frotter aux champions, je pense, aujourd'hui. Moi, je n'osais pas à l'époque, mais quand je vois un jeune, notamment Paul Lapeyrac, que je connais depuis ses 8-9 ans, je lui conseille tout simplement de faire aucun complexe face au champion à côté duquel il se trouvera dans le peloton.
Et justement, Paul Lapeyrat, tu m'amènes la transition, tu me fais la passe décisive parfaite, Mika. C'était justement les questions d'après. Mentor de Paul Lapeyrat, c'est quand même une histoire assez particulière. C'est sorti dans la presse, mais j'aimerais qu'on revienne ensemble dessus. Originaire de Saint-Hilaire du Harcouët, on peut prononcer le T Harcouët. Les deux Normands réunis, première course ensemble chez les professionnels cette année, c'était sur l'étoile de Bessèges, si je dis pas de bêtises. Tu es son idole et tu cours avec lui. Il est de 15 ans, ton cadet. Raconte-nous un petit peu cette histoire assez folle au final dans le cyclisme moderne.
Ouais, c'est vraiment une très belle histoire parce que Paul, je l'ai connu, il avait 8 ou 9 ans. C'était lors de ma deuxième année professionnelle où j'avais vraiment un paquetage dont je ne me servais pas. Beaucoup de maillots entre pro et j'étais allé faire une petite donation au club, à l'école de cyclisme. Et Paul s'y trouvait, l'école de cyclisme donc du Vélo Club Saint-Hilarien. Paul s'y trouvait et j'avais vu dans ses yeux vraiment, enfin, ses yeux briller tout simplement. Et j'avais été amené à venir le visiter chez lui et il m'avait confié qu'il avait des photos de moi accrochées en poster dans sa chambre et j'avais trouvé ça fou, en fait. Je m'étais dit, mais pourquoi moi? Pourquoi? Enfin, il y a Bounen, il y a Tavernel, enfin, voilà, il y avait tellement d'autres coureurs pour qui il aurait pu être idole. Et voilà, c'était moi. Donc, bah, je l'ai pris un peu sous mon aile et je l'ai guidé pas à pas. Il a d'abord intégré l'équipe H2R U19, puis le centre de formation à Chambéry. Et la transition s'est faite assez naturellement. Il a gagné des courses et aujourd'hui, il nous a rejoints. Et secrètement, je lui avais dit, j'arrêterai pas ma carrière tant que tu m'auras pas rejoint. Et je pensais qu'il nous rejoindrait en 2023, mais il l'a fait un an plus tôt. Donc voilà, ça me permet de courir avec lui et de profiter de cette belle histoire encore.
Ah, c'est génial, c'est génial. C'est des histoires, des histoires qu'on aime. On a vu, hein, grâce à Simon Farvac, notre réalisateur, une petite guirlande d'images que nous ont envoyé le service communication de ton équipe. On le voit, il est tout petit, avec les cheveux longs, en train de te demander un autographe. C'est génial. C'est vraiment des trucs très très sympas. On le disait, toi aussi, dans les catégories jeunes, tu avais été un coureur dominant, champion de France junior en 2003, si je dis pas de bêtises, c'est ça?
C'est ça.
En 2003, pas de victoire après, forcément, chez les professionnels. Pourtant, dans ta carrière, à plusieurs reprises, t'es passé tout proche. Si je te dis quatrième étape du Tour de Romandie 2011, est-ce que ça te rappelle quelque chose?
Bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais,
Ah, c'est fou!
j'espère que ce ne sera pas le regret de ma carrière, mais en tout cas, pour le moment, c'est une deuxième place qui méritait peut-être d'être mieux.
Ce jour-là, c'était du côté de Neuchâtel, battu par un certain Alexandre Vinokourov. Est-ce que des fois, sur un moment où tu es en train de rouler, peut-être à l'entraînement, tu te remémores ce moment, ce sprint, en te disant, quand même?
Non, 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 mais je me le suis remémoré il n'y a pas longtemps parce que j'étais avec un pote d'entraînement, mon pote d'entraînement Clément Rousseau d'Arkéa, et on a rejoint Vinokourov qui roulait sur nos routes d'entraînement. Et voilà, je n'en ai pas parlé, mais étrangement, on s'en était parlé, enfin, on en avait parlé quelques minutes avant de cette deuxième place et avec Clément. Et voilà, et c'est la coïncidence qu'on le croise quasiment au même moment, quoi.
Il y a eu également une quatrième étape de la Vuelta en 2015. Cette année-là, tu étais dans le coup pour la gagne avec le filou Alessandro De Marchi, l'Italien, qui s'était imposé. Pareil, tu es passé tout proche. C'était sur un alto, un des altos fameux du côté de la Vuelta.
Ouais, je pense que j'avais manqué d'expérience, j'avais manqué de sang-froid, voilà, peu souvent de fois, je me suis retrouvé en position de gagner dans ma carrière et ce jour-là, j'ai perdu mon sang-froid, j'ai attaqué un peu trop tôt, mais j'avais vraiment de très bonnes jambes et voilà, c'est dommage parce que c'est des opportunités qui se présentent peu dans une carrière pour un coureur comme moi. Et voilà, maintenant j'ai analysé ces erreurs et j'espère que je ne les reproduirai pas si toutefois j'avais une dernière chance.
Et pourquoi pas dans les Dolomites, hein. On voit beaucoup ça, les Dolomites. Ça sera pour toi, Mika, t'as tes supporters qui sont là. Kevin Dunant qui nous dit, victoire ou pas, n'importe quel amateur de cyclisme connaît ton nom, un des meilleurs équipiers au monde. Ça fait plaisir.
Ouais, ça fait plaisir, ouais. C'est vrai que. Bah je me suis sacrifié pour des leaders, mais c'est des aventures humaines que j'ai vécues et c'est vraiment un métier passion qui me procure beaucoup d'émotions et d'y avoir trouvé ma place et ce rôle d'équipier, pour moi, c'est tout simplement magique, c'est la belle vie, quoi.
Ouais, c'est la belle vie, je confirme. Un Normand expatrié dans le sud. Depuis plusieurs années, tu résides sous le soleil de la Côte d'Azur, non loin de Nice. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un certain Didier Janel, un directeur sportif de ton équipe, qui avait une petite question qui lui trottait dans la tête depuis longtemps. On l'écoute, Didier.
Allez, bonjour Mika, une petite question pour toi, qui m'a toujours trotté dans la tête. Quand on est originaire de la Manche et de Saint-Hilaire-du-Harcouët, et qu'on est descendu habiter sur la Côte d'Azur à côté de Nice, ton cœur penche vers où? vers la Normandie ou vers le sud et le bord de mer?
Tu peux te faire des ennemis là, attention, hein, il va pas falloir se fâcher.
Elle est là la vraie question piège. Non, je ferai pas offense à Daniel Mangas, mais comme un bon Normand, je vais répondre peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est-à-dire que je suis tout simplement né et mes racines sont en Normandie, mais aujourd'hui, ma famille, je l'ai constituée dans les Alpes-Maritimes, à Roquefort-les-Pins. Et voilà, j'y suis très bien, j'y suis vraiment heureux aujourd'hui. Maintenant, évidemment, je ne peux pas perdre à l'esprit que mes racines se trouvent en Normandie, dans le sud de Manche. C'est une terre de vélo. Hein. Je pense qu'il y avait tant de courses. Mes parents m'emmenaient tant en Bretagne, en Pays de Loire, en Normandie, puisque Saint-Hilaire-du-Harcouët, c'est un peu limitrophe à ces trois régions. Et c'est une chance que j'ai eue de grandir là-haut, au carrefour des trois provinces, et d'avoir beaucoup de courses, et ça m'a permis d'accéder à ce métier aujourd'hui.
La question qui fâche maintenant, Mika, 16 années professionnelles, fin de contrat en 2022, stop ou encore?
Encore.
Encore? Avec AG2R?
Non, alors moi je te dis encore parce que ma volonté, elle est de ne pas m'arrêter en 2022. Maintenant, voilà, il faut que Vincent définisse les stratégies, les orientations pour les années futures. Mais en tout cas, comme je te l'ai dit, j'appartiens à cette famille et je ne conçois pas une fin de carrière ailleurs que dans celle-ci. Donc, moi, ma volonté, elle est de continuer. Je sens que j'ai encore et la tête et les jambes pour poursuivre et pour apporter quelque chose à l'équipe. Ouais. Donc voilà, dans ma tête, j'espère qu'il en sera ainsi.
Bah, tu le mérites en tout cas, parce qu'on voit là que sur ce Giro, ça se passe pas mal. Il y a Clément Royer qui nous dit « J'ai eu la chance de parler avec toi à un feu rouge à Mandelieu ». Alors Mandelieu, pour ceux qui ne savent pas où c'est, Mandelieu, la Napoule, hein, c'est dans le sud de la France. J'étais comme un enfant. Tu vois, Paul Lapeyra, c'était son idole, mais t'es l'idole encore de beaucoup de cyclistes amateurs. Ça me fait penser que Paul Lapeyra, il avait également une petite question pour toi. On l'a oublié tout à l'heure, mais on va l'écouter, le jeune Normand.
Salut Mika, bon ça fait quelques années que tu es dans les pelotons, on connaît bien les grandes lignes de ta carrière, mais est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir sur le vélo? Allez, salut.
Même là il est gêné, il est intimidé.
Alors le meilleur moment c'est un souvenir collectif, hein, ça s'invente pas. C'est le podium du classement par équipe en 2014, où on est monté sur le podium des Champs-Élysées. Voilà, on a vécu un super tour cette année-là avec la place de deuxième de Jean-Christophe Perrault, la sixième place de Romain Bardet, qui est passé tout proche du maillot blanc, et on était meilleure équipe avec les casques jaunes. On termine à 9 ce tour-là, et ce podium sur les Champs, c'est tout simplement grandiose, c'est quelque chose de mémorable, c'est une aventure collective et j'en garde un excellent souvenir.
On a vu la photo avec la victoire de Vincenzo Nibali. On passe à la troisième partie, le tiramisu normand ou tiramisu de Roquefort-les-Pins, on l'appellera comme on veut. Avant le questionnaire du bistrot vélo, on fait un petit point sur le mondomètre et le françomètre. C'est notre habitude dans le bistrot du vélo, voir où on en est. Le mondomètre, hein, toujours dominé par la formation des Émirats Arabes Unis, à égalité avec la Quick-Step Alpha Vinyl, 22 victoires. Suivent les Grenadiers d'Ineos. On voit la Jumbo-Visma, 14 victoires. L'équipe Alpecin Phoenix avec Mathieu Van Der Poel, le premier maillot rose. 14 victoires également. Le Françomètre, ça nous concerne. La formation Arkea Samsic grâce à Hugo Hofstetter sur le Trobro-Léon qui prend les commandes. 10 victoires. La Cofidis, 9 succès. On retrouve la Total Energy et donc l'équipe AG2R Citroën avec 4 victoires en 2022. Le fameux questionnaire du Bistro Vélo pour toi, Mika. Est-ce que tu as un souvenir de tes premiers coups de pédale?
Oui, premier coup de pédale en course, c'était sur une épreuve en Mayenne, à Saint-Denis-de-Gâtine.
Ça va faire plaisir à Jackie Durand, ça.
Voilà, j'avais aucune notion de stratégie en vélo et on était une cinquantaine au départ. Petit à petit, la course a accéléré et à 2 km, voyant le peloton accélérer à mes côtés, j'ai accéléré encore plus fort et sans vraiment attaquer. Au moment où je me retourne, j'étais seul. Donc voilà, c'était une première course, une première victoire.
On parlait que tu étais l'idole de Paul Lapeyra, mais toi, Mika Schérel, quand tu étais plus jeune, tu devais avoir un idole aussi, quelqu'un à qui t'identifier. Ça peut être un sportif, un chanteur, un acteur, peu importe. Il y avait quelqu'un comme ça qui te motivait quand tu étais plus jeune?
Ouais, j'ai commencé le vélo à l'âge de 12 ans. Donc, mes premiers idoles étaient plutôt des footballeurs. Mais en cyclisme, c'était Vinokourov, parce que il attaquait constamment. Il avait un profil plutôt polyvalent et il avait extrêmement de panache. Donc, c'était Vinokourov. Il y avait Contador aussi. Voilà, mais je me suis pas vraiment nourri dans des idoles, pardon. Je regardais les courses, mais je me suis passionné petit à petit au fil des années pour le cyclisme.
Ouais, on comprend mieux pourquoi tu l'as pas gagné, hein, au final, cette étape du Tour de Romandie 2011. Hein, Vinokourov, en fait, tu l'as laissé gagner, t'as pas voulu nous le dire, c'est tout.
Pas vraiment, non, non, j'étais un peu en colère ce jour-là.
Quelle est ta course préférée, Mika?
Ma course préférée, c'est le Tour de France. Le Tour de France, j'aime beaucoup le Giro aussi. Ouais, je dirais le Tour de France.
Ouais. Ton passe-temps préféré, qu'est-ce que tu fais quand t'es pas sur le vélo, que ce soit en course, à l'entraînement? On sait que t'es très famille, tu te ressources comme ça. Est-ce que tu as des hobbies?
Je passe beaucoup de temps le plus possible avec ma famille, mes enfants. Voilà, c'est un bonheur perpétuel et continu, hein. Voilà, c'est passer du temps avec eux tout simplement. En dehors du vélo, déjà, les journées sont bien, bien occupées.
Et on les salue. S'ils nous regardent, j'imagine que ça doit être le cas. Est-ce que tu as une anecdote en 16 ans de carrière, quelque chose qui t'a marqué en tant que coureur, que ce soit en course, avant ou après, un moment vraiment marquant dans ton histoire de coureur cycliste? Une chute peut-être, ou autre?
T'aurais dû me demander un peu avant, parce que là, j'y ai pas réfléchi et je suis un peu pris sur le cours.
Mais c'est le but, c'est le but!
Ouais, une anecdote marrante. Ouais, je pourrais enfin, c'est plutôt mes coéquipiers qui pourraient parler d'anecdotes sur moi, notamment avant les contre-la-montre, où je suis bien connu pour ça. Je suis vraiment un stressé du contre-la-montre. Et ouais, j'en ai une qui me vient à l'esprit. Ça fera plaisir à mon entraîneur Jean-Baptiste Quiclet. C'est avant un chrono du Tour méditerranéen, il me semble. Il m'avait fait une grille, un planning de départ c'était vraiment calibré, minuté, où je devais sortir du bus à telle heure, m'échauffer, etc. Et il s'était décalé, il s'était trompé d'heure de chrono, en fait. Donc,
Aïe.
voilà. Donc, lui, dans sa tête, je partais 8 ou 10 minutes plus tard que ce que je devais faire. Et pris de panique, il n'était pas là. Il m'avait envoyé ça par mail, mais il n'était pas là. Et j'ai commencé à jurer en disant: mince, JB, et voilà, j'étais dans tous mes états dans le bus, et les gars savaient pas pourquoi je disais mince, JB. Il n'était pas là, mais en tout cas, voilà, ça nous a beaucoup fait rire, parce que je leur racontais évidemment après que j'avais eu une planification par JB et qu'il s'était un peu trompé, quoi.
Est-ce qu'il y a un garçon qui t'a impressionné dans ta carrière? T'en as croisé beaucoup des champions. Tu parlais tout à l'heure d'Alberto Contador, des Vinokourov, des Romain Bardet, bien sûr. Le coureur, si tu devais en sortir qu'un, je sais, c'est difficile, mais qui t'a le plus marqué, que tu as trouvé le plus fort sur le vélo?
Aujourd'hui, je dirais Van der Poel. Van der Poel, il a un panache incroyable. Ouais, il est super tonique. Il va vite au sprint. Il grimpe bien les bosses. Ouais, c'est un coureur tout simplement incroyable, vraiment surpuissant. Donc, et puis, c'est un coureur que j'apprécie. Donc, être à ses côtés sur le Giro, c'est un bon moment aussi.
Ouais, il fait partie de ces coureurs un peu nouvelle génération, passe-partout, à la Van Aert, capable de gagner un sprint, capable de gagner en bosse, en puncheur, un contre-la-montre, capable de tout faire. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste?
C'est voyager, c'est la liberté d'organiser mes journées comme je souhaite. C'est vrai que contrairement aux footballeurs professionnels ou aux sportifs issu de sport collectif. On est en totale autonomie à la maison. Et je reçois une planification d'entraînement donc de Jean-Baptiste Kiclet, mon entraîneur, chaque jour. Mais je suis libre d'organiser mes journées comme je souhaite. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Et puis, puis le vélo, c'est la liberté de choisir où je vais partir le matin. Parfois, j'enfourche le vélo. Je ne sais pas si je vais prendre à droite, à gauche, au carrefour. Et voilà, c'est la liberté. C'est... Sur le vélo, on est libre, on pense à beaucoup de choses. Et puis ouais, ça me permet aussi de voyager, de voir du pays. Et puis, puis aujourd'hui, on vit des aventures humaines incroyables. Ici, coureurs et staff compris, on est quasiment 30 personnes et on vit des émotions incroyables. C'est vraiment un métier qui procure des émotions, parfois négatives, souvent positives. Et ouais, c'est l'adrénaline, tout ça, le peloton. Non, c'est pour moi, c'est juste un rêve en fait.
Ouais, aux quatre coins du monde, en Océanie, le Down Under auquel tu as participé, les courses sur le continent asiatique. Ouais, c'est quelque chose de sympa. Et justement, à contrario, ce que tu aimes le moins dans ton métier de coureur cycliste, la chose qui t'embête le plus au quotidien.
Les contre-la-montre. Les contre-la-montre, franchement, ça c'est le truc. Je
mais pourquoi le chrono il te fait si peur ou tu trouves ça si terrible que ça?
Ah, tu sais, je suis un coureur endurant, plutôt diesel, et même sur les départs difficiles, je mets toujours un peu de temps à mettre en route. Et sur les chronos, ça pardonne pas quoi. Il faut être de suite dans l'allure, de suite dans le jeu et. Et j'arrive pas. Et puis moi, j'ai besoin d'adversaires à mes côtés pour me surpasser, en fait, pour les entendre souffrir, les entendre respirer, etc. Et me battre contre moi-même tout seul, sans. J'ai jamais réussi, en fait. Autant je réussissais en amateur ou chez les jeunes à faire d'excellents chronos, mais puis mon passage chez les pros, j'ai jamais réussi. Et je pense que maintenant, ça restera ainsi.
Le mot de la fin, il sera pour toi, Mika. Si tu avais un souhait à faire exaucer, ça serait quoi?
Faut que je le dise ou...
Ouais, que ça tu le dises. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, du vélo, rien à voir, la famille, tout.
C'est de continuer à profiter de mon métier. Et aujourd'hui... Ouais, tu soulignes la famille. Pour moi, c'est très important. C'est un équilibre qu'on a trouvé tous ensemble. C'est un métier qui provoque beaucoup d'absence, mais c'est un équilibre qui est le nôtre aujourd'hui. Et on est heureux ainsi. Moi, je suis heureux ainsi. Et voilà, maintenant, le soin, évidemment, on en parlait en début d'émission, ce serait de lever les bras pour... voilà, j'imprime cette photo, les bras levés... Et que je la donne à mes enfants et qu'ils soient fiers de leur papa, quoi.
Ouais, il reste 2 semaines pour ça, hein. On attaque l'étape 10 du Giro. Il y a de quoi faire. Il y a des parcours qui vont te convenir. Et nous, on va te suivre avec attention sur Eurosport pour la suite de ce Giro. On va découvrir justement le programme TV, une semaine riche en vélo sur nos antennes. La suite du Giro à partir de demain, bien entendu. La Venendal Classic samedi. Il y aura le Tour de Burgos au féminin de jeudi à dimanche. Et dimanche également, l'Antwerp Trophée à suivre sur nos antennes et applications. Merci beaucoup, Mika, de nous avoir accompagnés. On a passé un très bon moment. J'espère que toi aussi.
C'était super. Merci.
On te retrouve dès demain sur le vélo pour la suite de ce Giro d'Italia. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les lundis, pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.